Un piano, un violoncelle côté scène, des tables de bistrot, un petit verre de rouge côté salle, et ça commence avec deux maîtresses de cérémonie, toutes de noir vêtues et parées d'un boa blanc.
Quand le monde va si mal, il faut faire la fête.
Bienvenue au Birgit Cabaret.
Pascal Paradou.
Le Birgit Cabaret, presque deux heures pour raconter l'actualité en chantant avec des plumes, des perruques, des costumes et un public chauffé à blanc pour rire en écoutant Donald Trump, Emmanuel Macron, Bruno Retailleau, Marine Tondelier ou François Hollande. Le Birgit Cabaret, imaginé par deux jeunes femmes, Julie Bertin, bonjour.
Bonjour.
Et Jade Herbulot, bonjour.
Bonjour.
Les deux fondatrices du Birgit Ensemble. Alors, je me trompe souvent et on se moque de moi dans les noms propres, mais là je pense que j'ai tout bon, il s'agit bien de Birgit et non pas de Brigitte. D'ailleurs, aucune de vous ne s'appelle Brigitte. Donc, pourquoi ce nom?
Pourquoi ce nom? Eh bien, il vient de notre tout premier spectacle, Berliner Mauer Vestige, qu'on a monté avec Jade quand on était encore à l'école, au CNSAD, Conservatoire à Paris. Et on avait décidé de co-écrire et co-mettre en scène ensemble un spectacle qui est un atelier d'élèves, donc à l'origine, avec la moitié de notre promotion. Et puis voilà, on monte ce spectacle donc, qui retraçait l'histoire du mur de Berlin et ça devait rester un atelier d'élèves. Et on a eu la chance que, pendant les représentations, viennent un certain nombre de directeurs de théâtre et il y avait notamment Jean Bellorini qui était à l'époque directeur du CDN de Saint-Denis, donc le TGP, et qui nous a dit « Écoutez, j'ai beaucoup aimé ce spectacle, j'aimerais le programmer la saison prochaine ». Et donc, il a fallu monter une compagnie. Tout ça n'était pas du tout prévu. Et puis, avec Jade, on se dit « Ça serait quand même bien que le nom de la compagnie soit en lien avec ce spectacle fondateur ». Et il y avait dans ce spectacle un personnage nommé Birgit, qui vivait en RDA à l'époque du mur de Berlin. Et donc voilà, on a mis comme ça, on a jeté des noms sur le papier, est arrivé Birgit. Et puis ensemble, parce que, on en parlera certainement lors de l'émission, il y avait déjà dans ce spectacle fondateur une grande importance donnée à la musique, au chant et puis à la polyphonie, parce qu'on était déjà 16 au plateau à l'époque, donc c'était une grande équipe. Et on s'est dit, ensemble, ça fait référence aux ensembles musicaux, au côté orchestral, et ça nous plaisait.
Birgit Ensemble, ça fait aussi penser au Berliner Ensemble, qui a été et est toujours le théâtre où Bertolt Brecht a travaillé à Berlin. Brecht a quelque chose à voir avec vous ?
Oui, alors peut-être que nous avons quelque chose à voir avec Brecht. En tout cas, bien qu'on a, on n'a jamais monté de pièces de Brecht. D'ailleurs, de mémoire, je ne sais même pas si on a travaillé des textes de Brecht quand on était en formation. Et pourtant, c'est vrai que c'est une influence qui est importante pour nous dans notre travail, à la fois dans la manière qu'on a de diriger les interprètes au plateau, en maniant la notion de distanciation, mais aussi en mettant au centre de nos dramaturgies la question de l'histoire et de la politique, et donc de la présenter au public, de sorte que le public puisse fabriquer, en tout cas en direct, une critique de son époque et une critique du système politique dans lequel il est pris.
Nous sommes donc en 2021. Il faut commencer à imaginer ce spectacle, ou en tout cas ce concept de Birgit Cabaret, qui est plus d'ailleurs un concept qu'un spectacle uniquement, parce qu'il y a plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs opus, comme vous dites, de ce spectacle-là depuis maintenant 4 ans presque.
Oui, on est au 6e opus. Et donc, c'est vrai que c'est un rendez-vous qu'on s'est donné depuis 4 ans. Donc, idée qui nous a été soufflée par Christian Lalos, qui était à l'époque le directeur du théâtre de Châtillon, où on était associés. Il connaissait notre travail justement depuis le tout début, depuis Berliner Mauer. Et puis, on allait être en pleine campagne présidentielle. Donc, en 2021, quand on a commencé à imaginer à l'automne 21 ces premiers opus, il nous a dit « Mais Vous voudriez pas, les filles, imaginer comme ça, durant la saison, donc entre septembre et juin, trois rendez-vous pour les spectateurs, donc sous forme de cabaret, où vous pourriez vous emparer comme ça de la politique sous forme musicale, puisqu'ils savaient évidemment que...
Et sous forme humoristique
et
aussi.
Et sous forme satirique, c'est ouais. ça. Et c'est vrai que c'est des... Comment dire, c'est des thématiques, c'est des genres auxquels on est attaché depuis 10 ans qu'on travaille avec la compagnie.
Mais c'est très vieux style aussi, c'est très dans la tradition française, la moquerie sur la vie politique dès le début du XXe siècle, même à la fin du XIXe siècle. Il y a des comiques troupiers, il y a des spectacles qui se moquent des hommes et des femmes politiques, enfin des hommes, hein, au XIXe siècle, il y a ouais. peu de femmes politiques, ouais. qui sont à l'époque au pouvoir.
Oui, c'est vrai que d'une certaine façon, on s'inscrit dans cette tradition du chansonnier qui observe la société, qui observe les polémiques, les conflits et qui les transforme en chansons et qui les transforme aussi dans une forme comique, satirique pour amuser le public.
Oui, et c'est toute la tradition française de la caricature, cette liberté de rire de tout, malgré tout. Et si on célèbre ces jours-ci les 10 ans de l'assassinat des dessinateurs de Charlie Hebdo, c'est quand même assez important de rappeler cette liberté fondamentale, c'est-à-dire qu'on peut se moquer des puissants, quels qu'ils soient.
Tout à fait. Et nous, justement, le désir de développer, de développer justement ces cabarets, d'en faire un rendez-vous, est né aussi de notre expérience de petite fille, puisque nous, on a grandi, par exemple, avec les Guignols de l'info, et même, je crois que même quand j'étais toute petite, moi, j'ai même pu voir un peu le Muppet Show. Et puis, même si il était déjà
très 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 vieille,
non, mais et même si il était décédé déjà, mais je me souviens de Thierry Leluron, parce qu'il y avait souvent des émissions qui rendaient hommage à lui. Humoriste. Et en fait, nous, on a quand même grandi avec cette tradition satirique humoristique qui était à la télévision et donc d'incarnation aussi des hommes et des femmes politiques, ce qui, à notre sens, manque beaucoup aujourd'hui. On a besoin, en effet, de se moquer des puissants pour reprendre la main aussi sur le récit et dédramatiser notre rapport à la politique.
Alors, Thierry Leluron, pour les plus jeunes, c'était l'époque de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'était vraiment il y a très, 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 très longtemps, au XXe siècle. Alors, dans votre cas, avec votre cabaret, vous vous moquez des personnages existants. Ils sont nommés, ils sont représentés. Exemple, cette conversation téléphonique entre Emmanuel Macron, Donald Trump et Vladimir Poutine.
Very sorry, Emmanuel. Vladimir souhaite nous rejoindre. Je vais passer en double appel, tu peux rester, il n'y a rien à craindre.
Спасибо, comment allez-vous? Bravo, Domishka, mon guerrier. On va pouvoir les rendre fous, sortir les rats de leur terrier.
Je vous entends, cher Vladimir.
Oh, pour moi, ça ne change rien. La France peut se rendormir, petit pays de bohémiens.
Poutine, Trump et Macron dans le Birgit Cabaret. L'affiche est prestigieuse et le ton, comment dire, caustique. Vous utilisez quel adjectif ?
Caustique, sarcastique, grinçant aussi.
Méchant, un peu.
Oui,
pas trop.
Oui, oui.
Cruel.
Cruel, voilà. et cruel avec tout le monde. C'est-à-dire qu'on on s'amuse voilà, à vraiment balayer tout l'échiquier politique. Et puis, effectivement, on commence toujours par une séquence ou européenne ou internationale. Et donc là, en l'occurrence, on s'est dit qu'on ne pouvait pas passer à côté de la réélection de Trump et du séisme géopolitique que ça crée, y compris du côté européen. Et puis ensuite, on donne une grande place à la séquence française qui occupe ensuite les deux tiers du spectacle.
Julie Bertin, Jade Herbulot, moins caustique ou moins cruel, plus sensuel est le nouvel album de Barbara Carlotti annoncé pour le mois de mars et qui se dévoile peu à peu, notamment avec ce titre « Fantôme atomique ».
Petit matin dans les phares, j'ai conduit toute la nuit. Le périphérique est calme, l'aube s'éclaircit. Je poursuis ton image sur les routes désertées et j'ai pour seul radar mon cœur irradié.
Fantôme d'amour, je me perds dans l'espace. Fantôme atomique, ma hache.
Tu hantes les avenues et je roule sans te voir. Leur sourire dentifrice, ces boissons qui me glacent et je dans les phares, j'ai conduit toute la nuit. Le périphérique est calme, l'aube s'éclaircit. Tout explose dans un flash de voitures broyées. Accident intérieur, de mon cœur irradié. Fantôme d'amour, je me perds dans l'espace. Fantôme atomique, ma bombe H. Fantôme d'amour, mon idylle est un crash. Fantôme atomique, ma bombe H.
Barbara Carlotti sur RFI, la radio de toutes les musiques de la chanson française au cabaret, et notamment au Birgit Cabaret, spectacle signé Julie Bertin et Jade Herbulot, un cabaret très musical. C'est d'ailleurs la base, c'est la structure du spectacle, mais ce n'est pas vous qui composez les musiques. Hein. Vous avez toute une équipe autour de vous, Jade Herbulot.
Oui, alors c'est Grégoire Letouvet qui est compositeur, arrangeur des chansons du Birgit Cabaret et qui travaille en duo avec Romain Marron, qui est notre parolier depuis le début, depuis le premier opus. Et c'est Grégoire qui nous l'a présenté parce qu'il se connaissait depuis longtemps. Et il nous a dit, voilà, on se connaît bien, on est complices et il le faut pour écrire à vitesse grand V les chansons du cabaret, puisque pour préparer la recette pour préparer un cabaret, c'est de se retrouver 2 mois avant la première, donc ce qui est relativement tard, de renifler un petit peu les thématiques du moment et celles qui vont aussi tenir d'ici 2 mois, 3 mois, de déterminer les thèmes des chansons. Et nous, ensuite, avec Julie, on écrit, on documente chaque chanson qu'on envoie au parolier. Et ça qui est assez incroyable, c'est assez magique. Il transforme un ensemble d'articles de journaux, de vidéos en chansons.
Et puis actuellement, il y a 4 interprètes, comment les nommer, actrices, interprètes, qui prennent un plaisir fou à se grimer et à chanter ces textes-là, et donc à incarner tel ou tel personnage. Et c'est dingue quand même, comment le plaisir de jouer, le plaisir de chanter et de danser se communique au public.
Oui, et c'est vrai qu'elles sont assez incroyables parce qu'elles n'ont pas de formation de chant. On s'est toutes connues donc en conservatoire, on fait partie de cette même promo. Mais elles ont toutes un grand talent pour la chanson et c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ces cabarets à l'origine. Et puis on aimait bien l'idée que ça soit un cabaret féminin. Alors, on a ces 2 hommes déconstruits, 2 musiciens au plateau. Donc, Grégoire Letouvet, qui est donc le compositeur et qui est aussi le pianiste du cabaret, et Alexandre Perrault à la contrebasse. Mais sinon, c'est vrai qu'en nous comptant, Jade et moi, puisqu'on est maîtresse de cérémonie, on est 6 filles sur scène et on aimait bien, avec Jade, l'idée que justement, ce soit des femmes qui s'emparent de la parole politique, de la satire politique, ce que l'on voit assez rarement. Et effectivement, en quelques secondes, elles changent de perruque, prennent un autre carton, puisque donc, chaque nouveau personnage se présente avec un carton sur lequel est écrit son nom et de les voir effectivement se grimer et croquer ces puissants. Alors de manière différente, sans être dans le principe de l'imitation, c'est pas tellement ce code de jeu-là, c'est plutôt essayer de choper un trait caractéristique de chaque personnage politique et de réussir à l'incarner.
C'est sommaire quand même, parce que c'est juste une perruque, un gros ventre et un accessoire qui n'a parfois rien à voir avec le personnage lui-même. Par exemple, Retailleau se retrouve avec un sapin scintillant sur la tête.
Mais c'est le cabaret des fêtes, alors il fallait bien un petit peu s'amuser. Et effectivement, on aime bien, on dit on était cruel, bon, on les ridiculise un peu.
Un petit peu.
Écoutez, ça nous faisait plaisir de mettre un sapin de Noël sur la tête de Retailleau.
Et pour le reconnaître, lui comme les autres, donc il brandit un carton avec son nom. Voilà. Et puis, pour qu'on ne l'oublie pas, il dit qui il est.
Bonsoir, moi c'est Bruno et j'ai 64 ans. Je suis du Maine-et-Loire et père de 3 enfants qui ne m'ont jamais donné aucun fil à retordre. J'ai un secret, c'est l'ordre. Notre pays est bon mais plein de gens malsains. Pour moi tous les fumeurs ont du sang sur les mains. Simple consommateur ou grand dealer de coke, ils sont aussi criminels que les woke. La crise est aujourd'hui civilisationnelle. L'immigration est un terreau pour la quenelle. Il faut flairer le vice, le cancer est malin. J'avais promis de faire mieux que Darmanin. Travail, famille, patrie, nostalgie d'une époque. La liberté chérie, le chant si fier du coq. Travail, famille, patrie, la crèche et les rois mages. Remettons l'église au centre du village.
Et ainsi se présente le ministre de l'Intérieur dans votre spectacle, Jade Julie. C'est tout lui, en fait. Hein. Il y a ses mots, il y a de ses formules, de ses expressions. Vous poussez quand même un peu le trait, parce que « Travail, famille, patrie », c'est le slogan de Vichy et de Pétain. Et à ma connaissance, il ne l'a pas adopté.
Non, il ne l'a pas adopté, même si on peut retrouver dans le discours de Bruno Retailleau certaines... comment dire, certains traits qui ressemblent à, parfois à s'y méprendre, à ses valeurs en tout cas, à la valeur du travail, de l'amour de la nation qui s'exprime en stigmatisant une partie de la population. Il a encore récemment parlé d'ensauvagement pour parler des voitures incendiées et des interpellations la nuit du Nouvel An. Voilà, il y a quand même un discours un petit peu nauséabond qui parfois fait signe vers le passé.
Où vous mettez le curseur dans la moquerie ou la dérision? Est-ce que vous avez des limites? Est-ce qu'il faut que vous riez vous-même de vos bonnes blagues?
Ouais, j'allais dire ça, c'est-à-dire que... Voilà. D'abord, il faut que ça nous fasse rire, que ça fasse rire l'ensemble de l'équipe. Et je crois que c'est ça le curseur et que ça soit... comment dire, c'est d'abord très documenté. C'est-à-dire qu'on le disait, on écrit vite, mais on se documente énormément et on réécrit même au fur et à mesure les spectacles pendant la tournée.
Mais ça veut dire que l'actualité politique française, il y a une partie internationale, oui, mais une grosse partie d'actualité politique française, ça vous passionne? Parce que j'ai l'impression que dans l'opinion publique aujourd'hui, il y a une forme de lassitude quand même devant tous ces rebondissements et ces répétitions.
Ah oui. Je dirais pas. Enfin, en tout cas, quand on joue le spectacle, j'ai plutôt l'impression que les gens sont heureux de se retrouver, de se rassembler et de pouvoir quand même entendre parler de politique et en rire. Et quand on a commencé à jouer cet opus, c'était en début décembre. Donc voilà, là, on le sait, l'actualité politique tous ces derniers mois est très, très dense. Et on a eu des spectateurs qui sont venus nous voir après le spectacle et qui nous ont dit, bon, écoutez, quand j'ai commencé à entendre là, les premiers sketchs ou quelques archives audio, parce qu'on en met dans le spectacle, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là encore? J'entends parler de politique, je n'en peux plus. Et en fait... très vite, j'ai senti qu'il y avait un effet cathartique, une forme d'exutoire qui était salvateur et qui faisait du bien et de pouvoir en rire. Et encore une fois, en rire ensemble, parce que là, souvent, quand on le peut, en tout cas, on crée un dispositif, vous en parliez tout à l'heure, où les spectateurs sont attablés et se retrouvent du coup à côté de d'autres personnes qui ne connaissent pas forcément et qui tout d'un coup se retrouvent à rire ensemble de ces sujets qui pourtant, au début, pourraient plutôt nous faire pleurer.
En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'actualité est riche, elle est très mobile, elle change tout le temps et c'est du pain béni pour des comédiens ou des metteurs en scène parce que à peine Barnier est-il nommé qu'il est déjà tombé, Bayrou est là et vous apprêtez à préparer des sketchs, j'imagine, sur sa chute, non ?
Oui, c'est vrai qu'on se demande combien de temps il va rester Premier ministre. Et d'ailleurs, c'est marrant que vous en parliez parce que le dernier cabaret qu'on avait monté, donc c'était le numéro 5, on l'a joué au printemps. Et on l'a joué avant et après la dissolution. Donc le jour où Emmanuel Macron a annoncé, a dit « Je dissous l'Assemblée nationale », nous on a tout de suite pensé « Nous devons réécrire toute une partie de notre spectacle » qu'on présentait quelques semaines plus tard, à peine,
même
je sais
pas,
même
une
pas
semaine
une semaine plus tard, au Théâtre du Rond-Point, ouais, à Paris. Après, et c'est le jeu. Et c'est vrai que c'était la première fois qu'on était confronté au fait de devoir autant modifier le spectacle. Et c'est vrai qu'en plus, on l'avait pas prévu. Donc on n'avait pas forcément le temps. On s'appelait avec Julie, avec Grégoire, le musicien et le parolier. Mais en même temps, c'est ça qui est excitant et c'est ça qui est stimulant. Et c'est ça aussi que sent le public. C'est que ce qu'on joue, ce qu'on leur dit, est spécifique et n'existe que pour cette soirée-là. Et on sent que ça, ils le perçoivent et que ça fait partie aussi du plaisir qu'ils ressentent en regardant, en assistant à la représentation.
Alors, il vous faut toujours modifier, adapter le spectacle, aller vite, être percutante, mais il y a quand même des piliers et des intemporels qui sont ceux du capitalisme, avec dans votre spectacle des invités de marque, en la personne de Vincent Bolloré et Bernard Arnault, qui font leurs vœux pour 2025.
Excusez-moi, Julie, je sens poindre dans votre voix une once de reproche, et ça me chagrine.
Ah ?
Oui, pour votre gouverne, je vous rappelle que LVMH emploie 220 000 personnes dans 80 pays. Alors évidemment, dès que quelque chose réussit en France, vous avez les critiques qui fusent dans tous les sens. Alors heureusement, grâce à Emmanuel... Non, vraiment, je le pense, Emmanuel. C'est ces dernières années, la mentalité anti-entrepreneur, qui est très, très prégnante hein, dans notre pays, a un peu changé en mieux. Oh là là,
j'aime cet état d'esprit. Et vous savez quoi ? 2025 va être une année formidable ! Une baisse de croissance ?
Un problème d'inflation ?
Nous sommes les hommes d'affaires.
De la situation.
Qu'est-ce qu'on vous souhaite ?
De joyeuses fêtes, de grands millésimes, divins, sublimes, de la langouste, un bon coup de boost, c'est du paradis fiscal dandy.
Qu'est-ce qu'on
émulsion caviar, millions, milliards, un Claude Monet en crypto-monnaie, c'est notre héritage qu'on vous partage.
De la langouste avec émulsion de caviar, rien que ça, je trouve quand même que ça s'appelle un peu un humour de gauche, Julie Bertin, Jader Bulot, non ? Je me trompe ?
Non, on va pas se mentir, on va pas se mentir. Les spectateurs devinent très certainement quelle est notre comment on pourrait appeler ça notre ligne éditoriale, notre ligne éditoriale politique.
Mais est-ce que vous revendiquez un parti pris ou un engagement ? Parce qu'aujourd'hui, les artistes ont du mal des fois à s'engager, n'osent pas, disent pas.
Bah, je crois qu'en tout cas, on a un ton assez libre, c'est-à-dire qu'on ne se censure pas, on ne s'oblige pas absolument à comment dire, même si on balaye encore une fois tous les bords politiques, là on dit ce qu'on a à dire sur l'extrême droite, sur Ciotti, sur les milliardaires, voilà. Et encore une fois, on a, nous, dans nos fonctions de maîtresse de cérémonie, on adopte un ton qu'on dit souvent un peu de fausse naïve. C'est-à-dire qu'on semble découvrir qui est Vincent Bolloré, Bernard Arnault. Mais évidemment, le public comprend bien que nous, on n'en pense pas moins. Donc voilà, on ne cherche absolument pas une forme de neutralité. On s'implique pleinement.
Et c'est vrai que la gauche est aussi moquée dans votre spectacle, dans ce Birgit Cabaret, avec Hollande, Ruffin, Tondelier et Roussel, qui en cœur imaginent, sur le modèle de la ZAD, une GAD, c'est-à-dire une gauche à défendre.
C'est l'heure de l'atelier, la ZAD. Notre zone de gauche à défendre. Le thème du jour, chers camarades, c'est le bonheur à réapprendre.
Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est le recul et la distance. À l'image des mammifères qui se suffisent à l'existence.
Moi je préfère fumer des pétards et insulter le patronat en tranchant un bon sauciflard et en chantant du Jean Ferrat.
Toujours la même lourdeur, Roussel.
Oh, ça va.
Calme ta nature excessive. Je te préviens, je ferai pas ta vaisselle et on ne fera pas ta lessive.
Oh merde, un peu de solidarité quoi, soyez sympa.
La gauche est désormais une espèce menacée, mais sachez que jamais elle ne va renoncer. Notre démocratie s'est fait cracher dessus, la 6ème République devait être une issue. Yeah.
Rastafari, Rastafari.
Birgit Cabaret, sixième opus, et en vous écoutant, vous riez. C'est quand même formidable. Vous êtes un très bon public, en fait.
Très bon public de nos actrices, mais c'est vrai que c'est un plaisir. Donc nous, en tant que maîtresse de cérémonie, on se place
très sérieuse quand vous êtes maîtresse de cérémonie.
Bah oui, il le faut. On est vraiment les garantes de l'ordre de la représentation, et c'est pour permettre aux actrices d'être d'autant plus clownesques et fantasques.
Nous, on est les clowns blancs, ouais.
C'est une histoire sans fin quand même, ce projet de Birgit Cabaret pour les actrices et metteuses en scène que vous êtes, parce que ça peut durer jusqu'à vos 90 ans.
Ah bien sûr. Alors bon, peut-être que nos boas seront un petit peu moins pimpants, mais effectivement, on se dit que c'est un rendez-vous qui pourrait être infini. En tout cas, le prochain rendez-vous est a priori prévu pour 2027 pour la prochaine campagne présidentielle. Mais alors voilà, est-ce qu'elles vont bien avoir lieu au printemps 2027, ça ?
Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous adaptez si elles ont lieu en 26, par exemple.
Bah, on se demandait, est-ce qu'on monte un cabaret d'urgence pour pouvoir traiter de ces élections présidentielles anticipées ? On verra comment on réagit en temps voulu.
En tout cas, c'est un marathon, j'imagine, que de concevoir ce spectacle et ce projet.
Ah, c'est une course contre la montre, oui. Parce qu'effectivement, il s'agit vraiment d'écrire vite et pour autant de ne pas renoncer à l'ambition musicale, à notre ambition aussi en termes d'écriture, de jeu. Et maintenant, savoir, on en a fait l'expérience donc, depuis l'année dernière, que tout peut en permanence se réécrire. Et pour les comédiennes, ce n'est pas évident. Là, par exemple, elles ont eu quelques jours pour apprendre une nouvelle chanson. Donc, puisqu'on accueille François Bayrou dans le cabaret maintenant, on a dit au revoir à Michel Barnier. Et donc, c'est deux nouvelles paroles, deux nouvelles scénettes à apprendre. Donc oui, il faut de l'endurance, mais elles sont très, très fortes.
Mais est-ce que vous pourriez imaginer une intégrale qui reprendrait tous les opus de ce Birgit Cabaret et qui serait une façon de raconter la vie démocratique de ce pays sur les 5 ou 10 dernières années ? Pourquoi pas, non ?
On a l'album.
C'est-à-dire ? On a un album qui sort sur les plateformes le 28 février où vous pourrez retrouver les chansons des précédents cabarets. Mais pourquoi pas une rétrospective, pourquoi pas un best-of des Birgit Cabaret.
Et voilà, et puis une anthologie, en fait. La vie à Sciences Po, la vie politique française racontée par le Birgit Ensemble. Ça pourrait être un projet.
Et pourquoi pas.
Merci beaucoup, Julie Bertin. Merci, Jade Herbulot. Le Birgit Cabaret se joue donc jusqu'au 19 janvier au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, théâtre dans lequel vous êtes artiste associé. On croise les doigts donc pour qu'il ne se passe rien d'ici le 19 janvier et que vous soyez obligé de refaire le spectacle. Et donc, dans quelques semaines, je l'ai bien noté, les chansons du spectacle seront disponibles sur les plateformes musicales. Mais c'est les chansons de ce spectacle ou de tous les spectacles précédents?
C'est les chansons des opus précédents. Voilà.
Pour ceux qui ont raté les premiers épisodes.
Exactement, tout à fait.
Merci beaucoup Julie, Jade de Vivois, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Et bien sûr, vous pouvez retrouver cette émission sur le site de RFI, rfi.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux et sur la plateforme Pure Radio. Vous cliquez, vous abonnez et vous nous suivez. À très vite.